Et non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Oui, salut à tous, c'est Dany Baillet, le gourmand d'As, pour une nouvelle émission. 93.8, Banos et Chalosse-Tursan, sur MDM bien sûr, et 101.1 à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, et en continuité de notre dernière émission, nous avions parlé essentiellement des vins blancs. Nous allons parler davantage de vins rouges, à travers un voyage rapide pour mettre un nom sur les grands pays de vins, bien sûr, mais aujourd'hui, de regarder la région de Bordeaux, qui, bien sûr, est une région phare, mais qui est suffisamment importante pour que nous ayons matière à discuter pendant cette émission, avec les vignobles principaux, les cépages par grande région, et en nous arrêtant sur ce qui nous occupe souvent, lors d'un repas, qu'il soit frugal, qu'il soit convivial ou qu'il soit plus élaboré, sur la présence de celui qui provoque souvent l'éveil des sens et l'idée majeure d'un accord entre plaisir et dégustation, c'est le vin rouge, bien évidemment. Au départ, vous le savez peut-être ou pas, c'est à l'image de la région de Champagne, tous les raisins rouges peuvent donner des jus blancs, des vins blancs, voilà, car leur jus est blanc par nature, et c'est simplement lors de la macération des peaux, des baies, qui restent avec le jus, que ce jus se colore progressivement pour rosé clair au départ si on le laisse très peu, ou pour rosé moyen à foncé, et pour quasiment vin rouge, jusqu'à pourpre très noir, les baies restent longtemps à être pigées avec le jus. Voilà, c'était juste un détail, mais qui a son importance. On voyait avec du raisin rouge, 95% de la Champagne produit du raisin rouge et produit du jus blanc. Comme quoi, c'est toujours bon à savoir. Donc je me propose avec vous aujourd'hui de faire une visite française, puisque nous allons rester dans notre région, autour de Bordeaux, et ça n'est pas rien, c'est évidemment le phare mondial des vins, c'est lui qui a donné les lettres de noblesse à sa propre région, mais bien sûr aussi aujourd'hui à beaucoup de grands vins du monde, parce qu'il existe aujourd'hui beaucoup de grands vins dans le monde, souvent à l'initiative de Bordelais qui ont formé les gens, qui sont allés sur le terrain, identifié les terroirs et mis en place les gens qui étaient l'élite de la région pour les vinifier. Donc, très facile, Bordeaux, quelque part, si on regarde sa carte, on regarde l'estuaire de la Gironde. D'un côté, tout simple, la rive droite, en allant vers Laval. De l'autre côté, logiquement, la rive gauche, évidemment. Sur les cépages, concernant la rive droite, on sera à dominante sur le cépage Merlot, bien qu'il y ait aussi la présence de Cabernet Franc, de Cabernet Sauvignon. Et sur la rive gauche, alors là, nous allons trouver davantage la présence à cause des sols graveleux, un peu maigres, mais très profonds, du Cabernet Sauvignon qui domine, qui s'est exporté partout, un peu dans le monde d'ailleurs, du Cabernet Franc aussi, du Malbec parfois, et aussi d'un cépage moins connu, le Petit Verdot. Voilà, je vous propose, moi, sur un itinéraire qui est transposable sur un de vos week-ends, parce que c'est très facile, je le fais moi-même au moins 2 à 3 fois par an, une balade qui vous permet de visiter les deux rives, sur un week-end par exemple, en partant de la rive gauche, en arrivant aux alentours de Langon, en prenant sur votre gauche pour prendre la route avant de prendre la Garonne, c'est-à-dire rive gauche bien sûr, pour prendre la route des Sauternes d'abord, dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, mais par contre celle des Graves, autour de Landiras, autour de Portets, pour arriver aux portes de Bordeaux, rive gauche toujours, et là traverser au cœur de Bordeaux les 4 crus de la ville de Bordeaux, le Haut-Brion, la Mission Haut-Brion, le Pic-Caillou et le Pape Clément, mais aussi tous les crus de Pessac-Léognan, donc beaucoup sont classés à l'heure actuelle, et traverser la ville de Bordeaux pour aller directement dans le Médoc, dont le Haut-Médoc, comme chacun sait, un peu comme le Haut-Rhin, se trouve en bas sur la carte près de Bordeaux, et le Médoc lui-même se trouve en haut de la carte, comme le Bas-Rhin se trouve en haut de la carte. Avec ici les plus belles appellations du Médoc, qu'elles soient génériques ou bien sûr communales, dont nous allons parler. Sur la rive droite, c'est pas compliqué, pour ceux qui connaissent un peu, sinon il suffit de regarder une carte, on se situe sur un territoire qui est assez vaste, depuis les Landes du Bazadais et la région de Langon, jusqu'à Blaye et l'entrée de l'estuaire de la Gironde, donc vraiment une zone très 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 importante et très diverse, puisqu'il y a là-dedans tous les territoires, hein. Si on y regarde de près, en faisant juste une pointe d'histoire, ce territoire était tracé avec les voies romaines et les voies appiennes, puisque lorsque les Romains ont tracé leurs voies, bien déjà ils avaient délimité, ce qui fait râler beaucoup certains producteurs aujourd'hui, mais qui se vérifie toujours malgré tous les apports qu'il a pu y avoir en termes de technologie, mais aussi sur les sols, sur les cépages, sur le travail, sur la vinification. Déjà, d'un côté de route, vous aviez Pomerols, et de l'autre côté, vous aviez la lande de Pomerols. Ça n'est pas que ce soit bien ou mal, mais envers et contre tout, il existe des différences qu'avaient déjà pressenties les Romains. Puisqu'on trouve ça dans les récits de Pline l'Ancien, bien évidemment. Hein. Donc depuis le 1er siècle, depuis le 4e siècle, le poète Ozone, bien sûr, comme le Grand Cru, le château Ozone, qui nous donne toute l'ampleur, bien sûr, de ce terroir de Saint-Émilion et tout ce qu'il peut donner comme produit qualitatif. Et ensuite, bien sûr, à partir de 1152, ces trois siècles d'occupation anglaise, dont la région ici, les Landes et Saint-Sever notamment, ont connu depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II d'Angleterre, Henri Plantagenet, trois siècles d'occupation anglaise pendant lesquels le Médoc va exploser, puisque les Anglais se sont toujours intéressés au Médoc. Et du reste, on trouve quelques noms significatifs et évocateurs aujourd'hui qui parlent de l'histoire des Anglais. Ce sont des châteaux comme Cantenac Brown, comme Chasse-Spline, ou bien d'autres, bien évidemment, des familles comme les familles Lurton, comme les familles Barton. Quand on voit Léoville Barton, c'est Barton, bien sûr, des Anglais qui ont fondé cette région, quelque part, qui sont les vrais fondateurs de cette région viticole, bien évidemment. Alors, le territoire, il est tracé par les voies romaines, et il délimite les appellations, bien sûr. La grande appellation de la rive droite, c'est Saint-Émilion, mais sur la plus connue, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses satellites, montagne Saint-Émilion, qui pour moi est le creuset et le sommet de la région, c'est-à-dire le point le plus haut, voilà. D'ailleurs, on l'appelait la montagne tout court, et pas forcément la montagne de Saint-Émilion. Lussac-Saint-Émilion, bien sûr, notre satellite. Puis Seguin-Saint-Émilion, qui est un peu plus éloigné, mais qui produit aussi des vins fins. Et surtout Saint-Georges-Saint-Émilion, qui est intéressant à visiter, car il constitue un hameau à lui tout seul, avec une très grande propriété, le château Saint-Georges, muré, entièrement muré, qui possède une chapelle, un château avec une orangerie splendide, qui est absolument à visiter, qui produit d'excellents, pour moi, d'excellents vins. Donc vous voyez, Saint-Émilion, bon, que tout le monde connaît aujourd'hui, au moins de réputation, qui possède des grands crus, il s'agit de quatre quartiers, le quartier de Mondeau, le quartier des Corbins, le quartier de Rolles, et le quartier, je l'oublie maintenant, mais peu importe, il va me revenir, voilà, des cadets. Voilà, donc plein de très très belles propriétés, bien sûr, avec tous les grands crus autour de la cathédrale, mais plein de choses aussi ailleurs, absolument magnifiques. Donc, après Saint-Émilion, on s'arrête une minute, bien sûr, sur Pomerols et la lande de Pomerols. Pomerols, bien sûr, ce vin mythique, cette petite enclave avec des terrains très profonds dans des micelles de pierre où la vigne peut aller jusqu'à 150 mètres de profond, y puiser des parfums de sous-sol incroyables dans de la crasse ferrugineuse qui se trouve dans des poches d'eau à des endroits très très profonds. On a retrouvé des traces de vignes à plus de 150 mètres de profondeur, c'est quand même pas rien. Donc, bien sûr, qui fait toujours un peu différence avec la lande de Pomerols, qui lui s'étend un peu plus loin jusqu'aux confins de la limite de la Charente. Une très très belle région, de très très beaux vignobles, et avec une singularité vraiment, une très très grande finesse dans le goût, et des vins en même temps très ronds, très puissants, où domine le Merlot, bien sûr. À côté encore, la région de Fronsac, très 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 belle région, sur de la même veine de pierre qui a été extraite pourtant longtemps au niveau des sols, mais il y en a encore dans le sous-sol, et qui est le chouchou, l'appellation chouchou, des Canadiens notamment, et des Américains maintenant aussi. Fronsac, une très très belle région de vin, avec son satellite canon, Fronsac, très jolie région, toujours à peu près un peu plus haut que la ville de Bordeaux en latitude, voilà, à l'est, bien sûr, au nord-est de Bordeaux. Entre deux, bien, il y a bien sûr plein d'appellations de Bordeaux génériques, hein, pour vous en donner quelques-unes. Il y a le Bordeaux supérieur, les côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, le Bordeaux du Haut-Benauge, le Bordeaux, une autre partie du Bordeaux supérieur, le Bordeaux Sainte-Foy, les côtes de Castillon, qui sont quand même encore dans les Bordeaux, même si elles sont un peu au-dessus en qualité, les côtes de Franc. Et donc, vous voyez, tout un nombre important d'appellations dans lesquelles ben, les acheteurs maintenant, d'ailleurs étrangers notamment, se perdent un peu, puisque tout ça paraît assez complexe par rapport à dans d'autres pays. Mais seul le cépage est annoncé sur la bouteille. Merlot, Cabernet. Bon, ici, on est déjà dans une foultitude d'appellations où tous les vins ont été en plus corrigés par les nouvelles méthodologies de vinification et très boisés. Donc, bien sûr, on retrouve moins les caractéristiques d'une région ou d'une zone à une autre, on va dire. Au milieu, bien sûr, vous avez toute la grande zone de l'entre-deux-mers, l'océan de vignes, qui lui, un peu en dessous de la ville de Bordeaux, au niveau de la ville de Bordeaux, rive droite, mais produit beaucoup de vins blancs. Maintenant, quelques vins rouges aussi, mais beaucoup de vins blancs, les vins blancs d'entre-deux-mers. Voilà, donc ensuite, au-dessus, ben, les côtes de Castillon, puisqu'on s'approche de la même veine que celle de Saint-Émilion. Des vins très intéressants, hein, beaucoup de crus très très intéressants. Et ensuite, directement, donc, on tombe dans la région de Saint-Émilion, avec Saint-Georges autour, Montagne-Saint-Émilion, Lussac, et pour aller vers Pomerol, la lande de Pomerol, les Fronsac. Voilà, donc, cette région qui est assez regroupée, hein, qui est très en masse, qui fait masse un peu, donc, au nord-est de Bordeaux, rive droite, pour aller jusqu'à l'estuaire de la Gironde, sur les côtes de Bourg, et les côtes de Blaye, Blaye donc est sa magnifique citadelle qui contourne tout un bras de la Gironde, voilà, pour donner des vins de colline, des vins en côte au sud, souvent en côte en pente au sud. Voilà, des vins très intéressants, des Bordeaux assez légers, à dominante de Merlot et de Cabernet. Donc pour tout ce territoire avec ses 10 appellations de Bordeaux génériques déjà, ça nous permet aussi de dire que les autres appellations, bien sûr, sont communales. Et en Bordeaux, comme dans beaucoup d'ailleurs d'autres appellations, comme c'est le cas en Bourgogne aussi, ben, les autres appellations communales sont souvent, bien sûr, plus prestigieuses et connues pour s'être distinguées un peu de tout ce qui reste dans le fonctionnement générique, bien évidemment. On peut noter dans ces appellations communales de la rive droite les Graves de Verre, une petite encoche, enclave, qui est un peu au-dessous de Libourne, en bordure de lac, dans de très très beaux paysages, parce qu'on connaît les bords de mer, mais le bord de lac est aussi très très joli. Donc les Graves de Verre, c'est cette petite enclave qui est rive droite, alors que les Graves sont tous quasiment rive gauche, sauf ces Graves de Verre. Donc les appellations de Saint-Émilion, bien sûr, appellation de village, Pomerol, bien sûr, Fronsac, Le Bourget, Bourg, sur Gironde, et Blaye, tout à fait au nord-est donc, de la ville de Bordeaux, le long de l'estuaire de la Gironde. Ici, sur toute cette région, c'est le cépage Merlot qui domine, je vous l'ai dit, avec du Cabernet, bien sûr, quand même, mais c'est quand même le Merlot qui domine. Et voilà, donc pour la rive droite, ce que nous pouvions dire de son fonctionnement et de son implantation. Si on prend la rive gauche, bien sûr, nous trouvons ici les graves tout court, les Graves donc de Sérons, au-delà de Barsac, et bien sûr, les Graves autour de Landiras. Voilà, très jolie appellation de terrain, comme son nom l'indique, pauvre et graveleux, comme on va en retrouver un peu plus sophistiqué sur le Médoc, en continuité de cette langue de terre de cailloux blancs. Des Graves, bien sûr, plus connus et plus sophistiqués, ceux de Pessac-Léognan, qui s'insèrent avec leurs crus les plus légendaires dans la ville de Bordeaux et autour de la ville de Bordeaux. Avant de donner, bien sûr, l'ouverture à la route du Médoc et de ses stars, dont nous parlerons tout à l'heure, avec, bien sûr, des Médocs génériques dans le Médoc au fond sur la carte, comme tout à l'heure, et le Haut-Médoc, très près de la ville de Bordeaux ici, et bien sûr des six appellations communales du Médoc, qui sont au plus loin Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Moulis, et bien sûr Margaux, au plus proche de Bordeaux, dans le Haut-Médoc. Voilà, je vous propose un petit moment de pause, en attendant de parler de dégustation, et comment appréhender la dégustation des rouges de Bordeaux, et quelques accords entre mets et plats. Salut, c'est Lou Gourmandaz, vous êtes bien sur MDM 93.8 Charles-sur-Sang, 101.1 Mont-de-Marsan. Bon, nous avons parlé du vin, un petit voyage, un itinéraire à faire entre la rive gauche et la rive droite sur un week-end fort sympa, je vous l'avoue. Je vous retrouverai peut-être d'ailleurs sur ce terrain, sur le vrai terrain. On pourra peut-être l'envisager ensemble, avec grand plaisir en tout cas. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de dégustation, parce que quand on parle de vin, toute l'histoire, c'est beau, mais c'est intéressant de déguster. Et pour avoir quelques pistes, voilà, pour les néophytes ou pas les néophytes, hein, pour déguster le vin, comment s'y prendre ? Eh bien, c'est d'abord une affaire d'œil, bien sûr, de vue. C'est une affaire de nez, bien évidemment. Là, on commence dans la gourmandise, pour finir avec une affaire de bouche, bien évidemment, qui fait la continuité et la longueur. Alors, comment repérer un vin, regarder un vin, en quelque sorte, et l'apprécier déjà à l'œil ? Eh bien, c'est pour les vins les plus jeunes, les vins rouges les plus jeunes, c'est une couleur un peu pivoine, une couleur rubis clair, on va dire. Rubis, tout court, vraiment, sur certaines appellations, pas forcément les Bordeaux, mais les Bordeaux génériques, oui, souvent. D'un rubis plus profond, ben là, il s'agit de vins... qui sont plus concentrés, donc plutôt dans les grandes appellations, et qui comportent plus de cabernet que de merlot, parce que le cabernet est un cépage beaucoup plus tannique, beaucoup plus concentré. Les couleurs vermillon, c'est un peu dans le grenat, si vous voulez. Voilà, grenat, mais avec un grenat plus intense aussi, qu'on trouve souvent dans les bordeaux plus légers, les bordeaux génériques, pour aller vers un carmin, quelque chose de plus brillant, et surtout dans les pourpres, jusqu'au pourpre noir sombre, pour ceux qui sont âgés, sans l'être trop bien sûr, parce que quand ils sont trop âgés, ben on est plutôt dans le tuilé, couleur de tuile claire, de tuile rousse, d'un marron clair, de couleur acajou, même parfois de couleur café, vous voyez, comme dans la chanson de Gainsbourg. Un vin brillant, c'est quoi ? C'est très important de regarder un vin dans son verre et de le trouver brillant, surtout s'il est jeune, parce que s'il n'est pas brillant, c'est qu'il n'a pas une acidité importante, une acidité qui lui permet de vieillir naturellement. Alors, c'est vrai pour les blancs, mais c'est aussi vrai un peu pour les rouges. En tout cas, le brillant, c'est la bonne santé du vin, il n'y a aucun doute. Donc un vin jeune doit être brillant, et le premier nez que vous y mettrez dessus, vous le mettrez après l'agitation. On met d'abord le nez avant d'agiter le vin, et ensuite après l'avoir agité. Sauf qu'à cet instant précis de l'agitation, vont se dessiner les jambes. Tout ça c'est très féminin, mais c'est très vrai. Les jambes qui restent sur le bord du vin, qui sont signes d'alcool et de gras, bien sûr, de capillarité du vin, c'est-à-dire ce vin qui descend moins vite le long du verre que l'ensemble du liquide, eh bien, c'est ce gras qui marque la concentration du vin, bien sûr, donc, et ça c'est très important. Au nez donc, comment va-t-on regarder le vin? Parce qu'on l'a regardé avec l'œil, bien sûr, assez rapidement, mais on va surtout y mettre le nez dedans, il est très important de humer. Un pour identifier les arômes, bien sûr, naturellement, et ce qui va nous permettre d'en saisir toute la complexité. Quand on parle d'arômes, c'est vrai pour le vin en général, c'est aussi évidemment surtout vrai pour les vins jeunes, puisque ces arômes explosent davantage quand ils sont jeunes. Et ensuite, on parlera davantage de bouquet et de richesse aromatique pour un vin qui est à son apogée, qui a quelques années de vieillissement, donc qui est marqué par le conditionnement dans lequel il vit, il évolue, que ce soit de la barrique, que ce soit de la cuve, ça n'est pas du tout la même chose bien évidemment, et forcément de la bouteille. Alors faites vous-même votre analyse, c'est ça qui est important car il n'y a pas de dictature comme nous le disions il n'y a pas longtemps, en effet, et l'odorat, si c'est notre sens le plus sollicité, il faut quand même analyser puisque c'est aussi le moins éduqué au départ. Dans le nez, la personnalité aromatique du vin, on va se donner une astuce, identifions plutôt les odeurs par famille, sinon ça va donner un langage un peu prétentieux qui sied bien au club de vin et à la littérature adaptée, la littérature professionnelle. Pour nous, identifions plutôt des familles d'odeurs, un vin qui est plutôt expressif, qui est plutôt intense, qui peut être droit, qui peut être puissant, qui peut être généreux, qui peut être exubérant, pourquoi pas. Ou au contraire, qui peut être faible, qui peut être plat, qui peut être pauvre, qui peut être léger, sachant que léger, ça n'est pas forcément une sanction. Des vins légers sont parfois très agréables, peuvent être dégustés à tout moment et avec toute forme de plat. Pour en identifier les arômes, toujours par famille, je crois qu'il faut rester sur le même type d'astuce. Un vin dans ses arômes, donc dans sa jeunesse, il est plutôt floral, il est plutôt fruité. Ça existe dans plein d'appellations, y compris dans le Bordeaux. Il est plutôt végétal, il est plutôt minéral, il est plutôt épicé, il est plutôt poivré. Bon, il y a plein de qualificatifs qui peuvent être utilisés. Donc ça, c'est une méthode, moi, que j'applique pour moi, parce que je ne suis pas un génie dans la connaissance du vin, ni quelqu'un qui prétend que dans la dissection infinitésimale se trouve le bonheur du vin. Donc je pense plutôt qu'il existe d'autres méthodes, mais moi, la mienne, elle va rester celle-là, de chercher la personnalité aromatique du vin par des odeurs qu'on trouve par famille. Mais il existe bien sûr des méthodes extrêmement académiques, on est obligé d'en passer par là. Pour briller dans les salons, bien sûr, si vous voulez briller, il faut utiliser ces méthodes-là. Nous parlerons alors d'arômes primaires, pour exprimer le fruit pour les vins les plus jeunes élevés en cuve. Mais surtout, avec des parfums qui peuvent être souvent malheureusement masqués par l'utilisation fréquente de la sciure de bois, comme c'est dans la vinification large, moderne, qu'on appelle vinification large, et qui a tendance à uniformiser malheureusement tous les goûts. C'est ce qu'on appelle aussi la parkérisation du goût, c'est-à-dire cette volonté de gommer toutes les aspérités qui faisaient la différence entre le vôtre et le mien. Dans les arômes primaires, c'est surtout pour le fruit, ce sont les vins jeunes, qu'on va ressentir tout de suite, plein de fruits qui vont sortir. Les arômes secondaires, ils sont plus liés à la fermentation du vin, donc à une durée de conservation des vins plus longue. Ce sont des familles d'odeurs que l'on dit chimiques, mais surtout en raison de l'utilisation des levures. Ça vient au nez, bien sûr, des grands spécialistes, pas forcément au vôtre ni au mien, ça ne nous empêchera pas de déguster, mais dans certaines appellations, c'est assez criant de vérité. Si vous voyez ce que je veux dire, le troisième jeudi de novembre, on peut parler souvent de banane, par exemple, de brioché dans d'autres appellations, de lacté, de beureux, ça peut arriver aussi, même dans des très grandes appellations comme la Champagne. Et ceux qui sont marqués par le bois annexé, tous ces arômes secondaires se retrouvent sous forme de poivre, de vanille, de cannelle, de griller, de toaster, c'est très à la mode, de torréfier bien évidemment, et dans des très grandes appellations moins marquées par le bois, le lard des fumées, si je pense à la côte septentrionale du Rhône par exemple bien sûr, que l'on trouve aussi ce lard des fumées sur la côte rôtie, mais aussi dans le Bordeaux, sur un vin le plus rare certainement, le Haut-Brion. Des arômes primaires, des arômes secondaires, mais aussi des arômes bien sûr tertiaires, alors là il en va d'un peu plus de connaissances, d'un peu plus d'attention, je dirais, au nez. Ce sont les notes de barrique et de vieillissement en bouteille, donc des notes plus sophistiquées, plus fines. Avec les années en foudre, mais surtout en bouteille, le vin évolue très lentement, mais il évolue, grâce aux échanges avec le bouchon, sur des notes, parfois, et là j'insiste parce qu'elles sont présentes dans les grands médocs, bien sûr, que vous traverserez en visitant, notamment, je pense au Saint-Estèphe, par exemple, et au Pauillac, des notes plus animales, mais aussi des notes qu'on appelle animales, des notes végétales de sous-bois, de champignons, de notes très fortes, très puissantes. Ce sont des arômes tertiaires plus développés, qui sont exprimés notamment par le vieillissement en barrique et peut-être même en bouteille. En tout cas, que déduire du nez des vins ? Eh bien, c'est simplement qu'à travers la vue, nous avons regardé les couleurs, la densité, comment le nez dessus peut nous aider à faire le lien, et c'est ce qu'il faut faire, bien évidemment, entre l'œil du vin et le nez du vin. C'est y trouver une forme de maturité. On va déceler assez rapidement l'âge de vin, s'il est très jeune, s'il est moins jeune, s'il est plus vieux. Peut-être son cépage, si on progresse un peu, s'il est plus dans le Merlot que dans le Cabernet, jusque-là on peut y arriver. Et certainement, sa façon d'être élaboré. S'il est élaboré dans des méthodes actuelles avec beaucoup de bois, s'il est élaboré dans des cuves pas marquées par le bois, s'il a passé un peu de temps en bouteille ou dans des grands foudres. Trouver aussi, outre la maturité du vin, son origine, son terroir peut-être, et l'incidence de ce terroir. Ça compte quand même, j'en parlais tout à l'heure avec le Pomerol, il est évident que, voilà, on y trouvera une couleur pivoine, mais aussi et surtout une odeur de sous-bois, une odeur animale, une odeur de crasse ferrugineuse très très particulière, très, très puissante en même temps que très subtile. Quand on dit vieillissement, et quand c'est le cas, il faut que ce vieillissement, naturellement, c'est toute l'idée de la dégustation, confirme l'analyse visuelle. Il est clair qu'un vin très clair sera souvent un vin léger, il ne sera pas concentré, même si en Bourgogne, ce n'est pas toujours le cas. Mais en Bordeaux, en tout cas, c'est plutôt comme ça. Et ce qui va être en rapport avec le nez, il faut que l'analyse visuelle soit en rapport avec le nez. Et ça sera souvent le cas. Attention aussi, et ça n'est pas un grand conseil très sophistiqué, à l'utilisation des contenants. Bien sûr qu'il est important de prendre un verre, et un verre avec une certaine forme pour déguster les vins, donc évaser, bien sûr, donc à sa base, mais surtout un peu plus rétréci vers le haut pour pouvoir le faire tourner à l'intérieur et développer et permettre d'extraire donc par l'olfaction tous ces éthers, ces parfums de vin si complexes que vous découvrirez. Vous pourrez aussi peut-être utiliser un décanteur parfois pour des vins vieux. Décanter, ça veut dire avec une lumière type bougie, de faire couler dans les vieux vins dans une carafe, en faisant attention de ne pas y mettre ces dépôts nobles qui sont l'acide tartrique essentiellement, donc quelque chose de tout à fait naturel au vieillissement, qui a pu se déposer sur les côtés de la bouteille quand elle est restée couchée. Donc attention au contenant, bien sûr, moi je pense qu'il faut accorder une importance qui vaut son prix à l'utilisation de certains volumes de verre, certains volumes de verre. Nous avons parlé naturellement des vins de Bordeaux, le temps nous a un peu manqué, c'est un sujet tellement vaste. Nous avons parlé de situation du vignoble, sur la rive droite, la rive gauche, des principales appellations. Nous avons essayé d'aborder la dégustation, ça en vaut la peine. C'est toujours un sujet très complexe. Il nous reste maintenant à parler association mets et vins. Et ça, avec votre permission, ça sera le sujet de la prochaine émission. Merci à tous et à très vite sur nos ondes.